1079.
Bienvenue sur France Inter, bonjour à tous, nous sommes le lundi 13 septembre. Anaïs Feuga, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin, une dose de rappel vaccinal pour les personnes les plus fragiles. La campagne débute aujourd'hui dans les EHPAD qui ont vu le nombre de décès repartir à la hausse au mois d'août. On voit ça en détail, Anaïs, après les autres titres.
Alexandre Benalla devant la justice, l'ancien chargé de mission de l'Elysée. Ses violences sur des manifestants, ses passeports diplomatiques, son pistolet exhibé sur une photo au tribunal correctionnel de Paris jusqu'au 1er octobre. Dans ce journal aussi, le soutien d'Édouard Philippe à Emmanuel Macron, les élections en Norvège et le débat sur le pétrole. Et puis la victoire en s'excusant, ou presque, Daniil Medvedev, vainqueur de l'US Open de tennis aux dépens de Djokovic.
Invité de France Inter ce matin à 7h50, Léa.
Décidément, les jeunes réalisatrices françaises ont la cote. Après la Palme d'Or pour Julia Ducournau à Cannes, voici le Lion d'Or décerné à Audrey Diwan pour L'Événement, son film adapté du roman Annie Ernaux. Elle nous accorde sa première interview de retour de Venise. Audrey Diwan sera avec nous à 7h50.
Et à 8h20, Léa, on se retrouve pour le grand entretien de la matinale avec aujourd'hui la maire de Paris et désormais candidate à l'élection présidentielle, Anne Hidalgo, qui publie par ailleurs Une femme française aux éditions de l'Observatoire. Vous pourrez dialoguer avec elle au 01 45 24 7000. Le standard est ouvert et vous attend.
France Inter. C'est l'heure du rappel dans les EHPAD. La vaccination avec une troisième dose débute cette semaine pour les personnes les plus fragiles, vaccinées depuis longtemps, immunité souvent altérée par l'âge. Cette campagne doit renforcer les protections contre le Covid-19. Un tiers des établissements ont donc passé commande des doses, alors que les infections Hélène Chevalier ont repris cet été.
Magali Pesin a reçu ses flacons il y a 3 jours. La directrice de l'EHPAD des Orchidées à Croix dans le Nord vaccinera cette semaine sa 60aine de résidents. Ils ont été jusqu'ici plutôt épargnés par l'épidémie, mais la responsable sent la menace se rapprocher.
Je fais partie d'un groupe de 5 EHPAD. Parmi ce groupe, nous avons effectivement quelques cas d'infection au Covid à l'heure actuelle de personnes âgées alors qu'ils ont été vaccinés au mois de janvier, comme tout le monde.
Des petits clusters qui commencent à se multiplier sur tout le territoire, remarque Gaël Durel, le président d'EMCOR, l'association des médecins coordonnateurs en EHPAD.
De plus en plus d'EHPAD nous signalent ce nombre de cas, limité à 2 à 5 cas la plupart du temps, avec des formes peu importantes, peu de recours à l'hospitalisation.
Et même si ces infections restent légères, elles peuvent avoir des conséquences pour les plus fragiles.
Malheureusement, on a toujours des résidents vulnérables et sensibles, avec des pathologies qui peuvent décompenser rapidement, et donc on n'est jamais à l'abri d'avoir des décompensations rapides et des décès pouvant survenir sur ces personnes extrêmement vulnérables.
Effet de la quatrième vague ou d'une moindre protection chez les résidents, le nombre de décès en EHPAD a recommencé à augmenter au mois d'août, alors qu'il avait atteint des niveaux très bas avant l'été.
Une troisième dose pour les plus fragiles alors que la pression est plus que jamais sur les épaules des près de 3 millions de personnes qui travaillent dans les établissements de santé. Après-demain, ils devront tous avoir au moins une dose. Seuls 10% environ des salariés concernés ne seraient pas dans les clous. En Italie, le débat est également dans l'air. Et là, ce sont les personnels scolaires qui sont concernés. Passe sanitaire obligatoire pour travailler. L'Italie où les écoles sont restées fermées très longtemps à cause de l'épidémie. C'est donc le grand jour aujourd'hui avec la rentrée des classes. Le reportage à Rome de Bruce de Galzin.
Au lycée Virgilio de Rome, l'immense majorité du personnel est vacciné, comme Monica Sarandrea, professeure de français, qui ne comprend donc pas pourquoi le pass sanitaire est obligatoire.
Dans aucun pays en Europe, sur l'enseignement, même en France, on n'a pas demandé le pass sanitaire. D'ailleurs, 90% du personnel scolaire est vacciné. Donc c'est même plus que la moyenne nationale. Donc je trouve ça totalement, enfin ça c'est mon opinion personnelle, mais c'est injustifié. Il n'y a pas de cohérence.
Et cela ne rassure pas pour autant les parents d'élèves. Azzurra a 3 enfants au collège et en primaire. Comme beaucoup, elle n'est surtout pas d'accord avec la proposition du ministre de l'Éducation qui veut autoriser les élèves à enlever leur masque en classe si tous sont vaccinés.
C'est totalement discriminatoire. Je trouve que ce n'est pas juste. Et cela mettrait dans de mauvaises positions ceux qui ont fait des choix différents. Ça devrait être tout le monde pareil.
Mais les élèves eux-mêmes ne semblent pas prêts à enlever le masque. Federica a 16 ans.
Selon moi, il faut rester prudent. Même vacciné, il faut garder le masque, se laver les mains, nettoyer les bureaux. Même avec le vaccin, tu n'es pas immunisé totalement contre les maladies et les problèmes.
Devant le lycée, Virgilio, tous ont une même priorité, éviter le retour de l'école à distance. Rome, Bruce de Galzin, France Inter.
Au Royaume-Uni, 40 000 nouveaux cas tous les jours, mais le gouvernement renonce finalement à mettre en place le passeport vaccinal pour les discothèques et les stades après la levée de boucliers des professionnels. Argument du gouvernement britannique, plus de 80% de la population a reçu 2 doses de vaccin et c'est bien suffisant.
Il est 7h05, il est le symbole d'une affaire, Anaïs, qui a ébranlé le quinquennat d'Emmanuel Macron.
Alexandre Benalla, jugé à partir d'aujourd'hui au tribunal correctionnel de Paris. Des vidéos sur les réseaux sociaux, casque de maintien de l'ordre et un brassard de policier. Un article du journal Le Monde à l'été 2018 et la France découvrait l'affaire Benalla. Ce conseiller d'Emmanuel Macron filmé en train de brutaliser des manifestants le 1er mai. Affaire aux nombreuses ramifications. Le premier volet abordé, c'est l'élément déclencheur. L'épisode dit de la contre-escarpe, Ariane Grissel.
Dès le soir du 1er mai 2018, Taha Bouhafs, sur place en tant que militant, diffuse la vidéo d'une interpellation tournée dans le 5e arrondissement de Paris.
Regardez bien sa tête ! Regardez bien sa tête ! Il l'a tabassé par terre !
À ce moment-là, personne, sauf un petit cercle, ne sait qui est sur les images. Alexandre Benalla a été accepté comme observateur par la préfecture de police dans son dispositif pour la manifestation. Il vient avec une connaissance, un agent de sécurité nommé Vincent Crase, mais il n'est en aucun cas question que l'un ou l'autre intervienne. Saand Saber est l'avocat du couple, interpellé par les deux hommes.
Lorsqu'ils ont été interpellés et molestés, évidemment, ils pensaient avoir affaire à des policiers. D'ailleurs, les policiers qui étaient présents sur la place de la contre-escarpe disent que messieurs Benalla et Crase étaient perçus au début, non pas d'ailleurs comme des observateurs, mais plutôt comme des policiers de la BAC, puisqu'ils étaient habillés en civil.
Averti, le cabinet d'Emmanuel Macron suspend Alexandre Benalla 15 jours. L'affaire semble close jusqu'aux révélations du Monde. Mise en ligne quelques jours plus tard, une autre vidéo montre le chargé de mission, toujours le 1er mai, en train d'intervenir cette fois au Jardin des Plantes. En tout, il devra répondre de violences volontaires sur 4 personnes. Lui explique avoir voulu accomplir son devoir de citoyen en arrêtant des femmes et des hommes dont il a estimé qu'il s'agissait de manifestants violents.
Alexandre Benalla devra également s'expliquer sur le pistolet qu'on le voit brandir dans une photo, sur les passeports diplomatiques aussi. 3 autres personnes sont jugées, dont 2 commissaires de police, pour avoir extrait des images du système de vidéosurveillance de la préfecture. Pour y voir plus clair dans toutes ces enquêtes, c'est sur franceinter.fr. Lui était à Matignon pendant l'affaire Benalla. Édouard Philippe apporte son soutien à une éventuelle candidature d'Emmanuel Macron à sa propre succession. Il l'a dit hier soir sur TF1. Et comme les éclats métalliques dans le regard du président remarqué par Bruno Le Maire, l'ex-premier ministre voit lui aussi chez Emmanuel Macron la trempe de l'acier.
Pour l'élection présidentielle de 2022, je soutiendrai le président de la République. Je pense, j'espère qu'il sera candidat. Pendant 3 ans à Matignon, j'ai approché beaucoup plus que ça n'avait été le cas dans tout le reste de ma vie, la présidence de la République et le président de la République. Et j'ai vu combien cette mission, ce mandat était incroyablement difficile. Et je pense que Emmanuel Macron est fait d'un métal dont je ne vois pas beaucoup la trace dans tous ceux qui sont candidats aujourd'hui à l'élection présidentielle. Et je pense que c'est très important. Donc mon soutien sera complet au président de la République en 2022.
Soutien donc d'Édouard Philippe et clarification saluée par le président de l'Assemblée nationale sur Twitter. Clarification à gauche aussi ce week-end dans la campagne vers la présidentielle avec la candidature d'Anne Hidalgo. Elle sera l'invitée du grand entretien à 8h20. À l'extrême droite, c'est bien clair aussi. Marine Le Pen à Fréjus en campagne sur ses fondamentaux autour de la théorie de la submersion migratoire. Des missiles qui parcourent 1500 km avant d'atteindre leur cible. La Corée du Nord affirme avoir réussi ce week-end des tests d'un nouveau missile de croisière longue portée. Inquiétude ce matin des États-Unis. Le Japon se dit, lui, préoccupé. En Norvège, l'or noir et l'alerte rouge pour l'humanité au cœur des législatives aujourd'hui. Le rapport du GIEC en août sur le réchauffement s'est imposé dans la campagne du plus grand producteur européen de pétrole. Les sondages donnent le gouvernement de centre-droit battu par l'opposition rouge-verte. À Oslo, Frédéric Faux.
La Norvège a bien négocié l'épidémie de Covid. Le chômage est sous la barre des 5%. C'est un pays riche, avec un fonds souverain de 1200 milliards d'euros, soit le plus gros bas de laine du monde. Mais le pétrole, à la source de cette prospérité, est de plus en plus remis en cause. Béatrice est militante chez les Verts norvégiens.
Nous voulons arrêter la production de pétrole en 2035. Les travaillistes disent qu'on a besoin de plus de temps, mais nous n'avons pas tout ce temps.
Et les Verts ne sont pas les seuls alliés potentiels de la gauche à être sur cette ligne. Le leader travailliste Jonas Gahr Støre, issu d'une famille d'industriels, pourrait donc avoir des difficultés à former une majorité, comme l'explique le sociologue Johannes Berg.
Le plus probable est un nouveau gouvernement de centre-gauche après les élections, mais il pourrait dépendre de l'appui du parti de gauche plus radical et même des Verts qui veulent fermer l'industrie pétrolière. Beaucoup d'électeurs sont mobilisés pour l'environnement et le changement climatique.
Avec le dernier rapport du GIEC et les catastrophes climatiques de cet été, les partisans de cet arrêt du pétrole ont encore progressé dans les sondages. Reste à savoir si cela va se traduire dans les urnes. Oslo, Frédéric Faux, France Inter.
Thomas Pesquet a regagné hier soir la Station Spatiale Internationale. L'astronaute français a passé près de 7 heures dans l'espace, dans un scaphandre, pour sa 6e sortie extra-véhiculaire.
En tennis, hold-up à la mode russe.
Oui, le coup de maître de Daniil Medvedev qui gagne l'US Open en 3-7. Novak Djokovic ne réalise pas l'exploit de faire un grand chelem sur une année. Le numéro 1 mondial trop fébrile, et c'est Medvedev qui en tire profit.
Il y avait beaucoup de pression sur lui. Donc, je savais qu'il faut essayer d'utiliser ça pour moi. Ça veut dire quand il y a des moments durs, c'est là où il faut vraiment essayer de mettre cette pression sur lui. C'est ce que j'ai réussi à faire. J'avais fait tout mon mieux pour qu'il soit pas bien. Et donc, et c'est ça le tennis. Effectivement, quand le match est fini, il faut comprendre l'émotion de ton adversaire. Après, il était proche de faire l'histoire incroyable. Donc, je suis triste pour lui, mais je suis content pour moi, quoi.
Voilà, le russe Daniil Medvedev qui décroche enfin son premier tournoi majeur avec Fabrice Abgral. En Ligue 1 de football, Angers reste le dauphin du PSG, toujours invaincu grâce à un nul, un partout à Brest. Il y a 30 ans, ils sortaient leur tube Always the Sun. Les Stranglers sont de retour avec un nouveau disque, toujours aussi punk, selon notre spécialiste musique Mathieu Culeron, qui a rencontré l'un des membres fondateurs du groupe, le franco-britannique Jean-Jacques Burnel.
Ce nouveau disque rend évidemment hommage à Dave Greenfield, clavier des Stranglers décédé des suites du Covid en pleine pandémie. Mais il s'intéresse également à la politique, comme le confirme Jean-Jacques Burnel, bassiste du groupe.
Donc le premier morceau s'appelle Water, ce qu'on appelait en Angleterre de Arab Spring, un temps arabe. Et c'est sur ça, et donc on s'est dit, ça c'est une bonne chose. Malheureusement, c'est devenu autre chose. On impose nos valeurs sur d'autres cultures et on ne devrait pas.
Les Stranglers se forment en 1974 en plein mouvement punk naissant et jusqu'à aujourd'hui, ils auront toujours eu un statut à part, Jean-Jacques Burnel.
Je me souviens bien quand deux des Sex Pistols et Chrissy Hynde des Pretenders sont venus nous voir dans un pub à Londres, Joe Strummer des Clash. Mais petit à petit, avec notre succès qui grandissait en Angleterre, les autres groupes qui avaient été auparavant nos copains, nous avons été ostracisés un peu. Et c'était une bonne chose en fait. Surtout qu'on était le groupe choisi pour accompagner Patti Smith. Ça n'a pas plu aux autres groupes.
Dark Matters est l'album du confinement pour Stranglers. On y retrouve les fondamentaux que le groupe nourrit progressivement de nouveaux éléments depuis 47 ans. I'm collecting all these
feelings. Et ben voilà qui donne la pêche, hein, Nicolas. Interview en longueur de Jean-Jacques Burnel sur franceinter.fr.
Merci Anaïs Feuga. Le zoom dans 3 minutes sur la primaire populaire. Encore un mois pour convaincre.